France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Bonjour Daniel Salnave.
Bonjour.
Quand une académicienne interroge le phénomène des gilets jaunes, ça donne ce petit livre, petit par le nombre de pages, mais riche par son contenu. Ça s'appelle Jojo le gilet jaune dans la collection Tract de chez Gallimard. Jojo le gilet jaune, c'est pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron. C'était début février dernier quand le chef de l'État disait que Jojo le gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou un député. Et pour vous, ça, c'est le comble du mépris.
C'est stupéfiant. Franchement, quand je l'ai entendu, je ne l'ai pas entendu, ça a été relayé très rapidement, soit dans la presse, soit sur Internet. Je n'en croyais pas à mes yeux ou mes oreilles. Je me disais, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? L'idée d'égalité, elle est entrée dans nos institutions depuis la Révolution, mais elle est, si j'ose dire, elle est même plus générale que ça, l'idée d'égalité humaine, y compris d'ailleurs dans notre France si fière de ses racines, maintenant de France chrétienne, l'idée d'égalité, ça devrait quand même être naturel. Bien, et plutôt, on devrait se battre contre ce qui empêche de la réaliser et pas l'entériner en disant, quand même, Jojo le gilet jaune et un ministre, ça fait deux. C'est pour moi impensable.
Et on précisera que le même Emmanuel Macron venait de préciser quelques minutes auparavant qu'il avait décidé de faire attention à ces petites phrases malheureuses. Et il s'est pris le pied dans le tapis, visiblement, quelques minutes après.
C'est une phrase malheureuse. Et on me dit, mais c'est venu comme ça, mais c'est encore pire. Si spontanément on peut dire cela sans que rien, on devrait avoir, pour cela, si jamais on le pensait, il devrait y avoir immédiatement une petite lumière qui s'allumerait. Non, on peut pas dire ça.
Daniel Salnave, vous le rappelez dans Jojo le gilet jaune, oui. Ce petit peuple dont il est question à ce sujet, c'est le peuple dont vous venez, dont vous vous souvenez, parce qu'il y a des gens qui quelquefois ne s'en souviennent pas. Est-ce que vous pensez que vos parents étaient instituteurs?
Mes parents étaient instituteurs, oui.
Vous pensez que ce mépris vis-à-vis de ce petit peuple s'est accentué avec le temps ?
Il est certain que je ne veux pas non plus, parce que je ne prétends pas mettre en bandoulière ou en décoration des origines. On est là où on est. On est dans une grande famille ou dans des petites familles, c'est comme ça. Et ce qui me paraît, pourquoi j'ai voulu le rappeler, c'est aussi pour rappeler à tous ceux et celles qui m'entourent que la plupart viennent aussi de cet immense réservoir de ce qu'on appelle le peuple en général ou de ce grand anonymat dont parle Charles Péguy si bien quand il dit, si l'homme ou la femme se retourne derrière elle ou lui, il voit immédiatement un mur. Et tant mieux, dit-il. Nous nous enfonçons avec joie dans cet énorme anonymat. Moi, je m'enfonce avec joie dans cet énorme anonymat. Mais ce petit peuple, avec sa force de créativité, de production, de travail, on le traite comme... ce sont des petites gens, des humbles, ça c'est le vocabulaire plutôt clérical. Le petit peuple, tout ça, ce sont des formules qui sont intolérables. Même les anonymes qu'on lit souvent dans la presse, aux obsèques de Johnny Hallyday, les anonymes se pressaient, mais tout le monde a un nom. Et pas forcément avec une particule.
Ce mépris en provenance des élites, cette condescendance, vous l'associez aussi aux médias dans votre livre. À vos yeux, Daniel Salnave, en quoi les journalistes ont-ils mal rendu compte ou est-il méprisant à l'égard du mouvement des Gilets jaunes?
Vous soulignez un aspect qui est quand même pas dominant dans mon livre.
Non, mais vous le signalez quand même.
Parce que je n'ai pas
du
tout, moi, je fais pas de média bashing, comme on dirait aujourd'hui.
Bien sûr, mais il y a dans votre livre tout de même.
Je le cite en effet. Peut arriver justement des expressions comme les anonymes. Mais vous savez, il y a un moment qui a été extraordinaire pour moi. Et je l'ai encore dans les yeux. C'est le moment où on a vu apparaître sur des plateaux de télévision des gilets jaunes qui se mêlaient aux invités habituels et aux journalistes. Ils n'avaient pas la même allure, ils n'avaient pas tout à fait le même corps, la même façon de se tenir. Ils étaient formidables. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient à la fois un peu mal à l'aise et très à l'aise. Et moi, j'étais émue. J'étais émue, je me disais, j'aime mieux ça que de voir des gens qui font des mines devant un micro parce qu'ils chantent ou parce qu'on les invite à une émission de télé-réalité. Ça, c'est faux, tout ça. Là, il y avait une vérité incroyable qui passait dans leur corps et dans leur petite gêne et leur grande aisance.
Et vous rappelez dans cet essai que les gilets jaunes, c'est la foule. Or, la foule fait peur et elle fait grandement peur aux bien-pensants.
c'est certain. C'est une formule de Bernanos d'avant la guerre, c'est certain. La grande peur des bien-pensants. Elle fait peur parce qu'on pense toujours que la foule, c'est comme une somme d'individus qui, en se juxtaposant, finirait par se fondre et devenir une sorte d'animal dangereux. Et ça, ça remonte à l'Antiquité. La foule, comme animal dangereux, en proie à ses passions, incontrôlable. Entendons-nous, il peut arriver qu'en effet, et ça Canetti l'avait très bien analysé dans Masse et puissance, que le fait de se retrouver en bloc, en effet, peut produire des mouvements qui peuvent être ou de violence incontrôlée, ou d'absence de contrôle. Je ne le nie pas, hein. Moi je ne fais pas des gilets jaunes, des saints laïcs, pour
mais
moi pas du tout.
Mais vous estimez, Daniel Salnaf, que le gouvernement entretient sciemment l'amalgame entre la violence et les aspirations originelles des gilets jaunes ?
C'est-à-dire, si j'ose dire, cette bonne guerre. La bonne guerre, c'est essayer de faire passer les gilets jaunes pour ceux qui ne le sont pas tout à fait. C'est-à-dire pour un ensemble de gens qui, par certains côtés, ont de bonnes raisons, mais ce sont des raisons qui ne sont pas claires, qui ne sont pas cohérentes. Eux, ils disent tous des choses. Heureusement, on ne va pas demander à un mouvement qui n'a jamais existé, sauf d'autres choses, mais plus anciennes dans l'histoire. On ne va pas demander immédiatement d'avoir une conscience, une résolution, un calme, etc. Tout ça, ce sont des demandes truquées, parce que ça fait ressortir ce qu'on ne veut pas voir chez les gilets jaunes. Une demande de dignité,
on
et
va
pas
rester
seulement de justice.
Sur la violence, parce qu'aujourd'hui,
oui,
en plus, pour ce 23e acte aujourd'hui, les casseurs sont particulièrement attendus, selon les renseignements généraux aujourd'hui à Paris et dans d'autres villes de France. Vous citez, à propos de violence, le titre d'un des livres des Pinson Charlot, La violence des riches.
Eh oui,
cette violence des riches, elle est à la fois économique, mais aussi culturelle, institutionnelle.
Elle est culturelle. Alors quand je cite les Pinson Charlot, je cite aussi Brecht qui dit, on parle de la violence du fleuve, on ne parle pas de la violence des digues. Ce qui en sert, ce qui contient, bien évidemment, est violent. Mais il est évident qu'en citant, moi je lis les Pinson Charlot depuis le début, et j'ai toujours trouvé un énorme bienfait à les lire, et je les fais lire. Mais ils ont raison, cette violence-là, c'est une violence qui passe par des détours différents, qui passe et qui va jusqu'à l'intériorisation de la différence. Vous savez, je pense à une amie qui est metteur en scène. Elle promène un spectacle formidable dans des villages corses. Elle demande un petit délai pour arranger quelque chose dans la scène. Et des gens lui disent « Oh, ça sera bien assez bon pour nous ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont intériorisé le fait qu'ils n'appartiennent pas à une classe ou à un groupe pour lequel on fait des efforts.
Le vrai rideau de fer, c'est entre les riches et les miteux.
Oui, alors là, je cite Céline. Évidemment, j'aime bien de temps en temps citer des gens qui ne sont pas très fréquentables. Mais il y a chez Céline, dans Le Voyage au bout de la nuit, dans le premier Céline, avant qu'il commence à déraper très tôt, dès qu'il est médecin, à besoin, il dérape. Mais même là, déjà, il dit des choses formidables. Le vrai rideau de fer, c'est entre les miteux et les riches. C'est bien, non ?
À propos de cette violence en marge des gilets jaunes, c'est toute l'ambiguïté. Sans cette violence, ce mouvement aurait-il pu durer 23 week-ends de suite ?
En un sens, c'est tout à fait étonnant qu'il dure. Qu'il dure et qu'il représente quelques dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas forcément toutes les mêmes, parce que parmi eux, il y a des gens très estimables qui se sont sentis mal compris, maltraités, qui ont subi des menaces, comme Ingrid Levavasseur, par exemple, qui a un discours d'une clarté posée, mais qui, évidemment, a pris des coups, et c'est dommage. Mais je pense que c'est un peu inévitable. Il ne faut pas demander, comme disait Beaumarchais, à tout ce qu'on demande à ceux qui n'ont pas de particules, qui pourrait y répondre. Ben c'est la même chose, à tout ce qu'on demande à ceux qui se révoltent, qui pourrait vraiment remplir la catégorie du bon révolté. On veut un bon révolté, on veut un bon pauvre, on veut un clochard mais qui boit pas. Je vous donne une petite pièce mais pas pour boire. Il faudrait tout le temps se conformer à une idée préconçue. Les gilets jaunes ont été contaminés sur certains bords par des gens qui ne leur appartiennent pas. Certains y ont trouvé peut-être un moyen de faire avancer leur cause. À mon avis, c'est une erreur, ça ne la fait pas avancer. Ça ne l'a pas interrompu non plus. C'est-à-dire que le soutien mitigé, il n'a pas disparu. Moi, je comprends les commerçants qui ne sont pas très contents. Les kiosquiers dont on a brûlé.
Qui pourraient aussi être des gilets jaunes.
Et qui pourraient être des gilets jaunes. Donc là, vraiment, il y a des choses à reprendre.
La justice fiscale pour tout le monde. Daniel Salnaf, donc je rappelle le titre de votre livre, Jojo, le gilet jaune. Daniel Salnaf de l'Académie française. Ça paraît chez Gallimard dans la collection Tract. On va reprendre cette interview dans un instant. Le temps de faire une courte pause. Il est 8h30.
France Inter. Le 6-9 du week-end.
France Inter, première radio de France, également le week-end. Notre invité pendant 10 minutes encore, l'académicienne Danielle Salnave pour son essai Jojo le gilet jaune qui paraît dans la collection Tract de chez Gallimard. Vous dites dans cet essai, Danielle Salnave, que vous avez eu la chance de connaître mai 68. La violence en 68 avait-elle le même visage?
Sans doute pas le même. Et les points de ressemblance entre les deux sont plus grands qu'on ne croit. Moi, un des plus, ce qui est me paraît le point de ressemblance le plus marquant, c'est ce désir de parler. Et de parler avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on rencontre et avec qui on va parler. Sur un rond-point pas très loin de chez moi, enfin, en dehors de Paris, deux femmes m'ont dit, on habitait tout près, et on l'a vu plusieurs exemples, on s'était jamais parlé. Et ça, c'est une chose énorme. La violence en mai 68, elle a quelque chose d'un peu comparable. Si on veut faire des barricades autour de la Sorbonne, c'est aussi...
Oui, mais en même temps, un des slogans en 68, c'était élection piège à con. Là, avec la possibilité, la demande, voire même de référendum, que ce soit d'initiative citoyenne, d'initiative populaire, on n'est pas dans cette même configuration.
Ce ne sont pas les mêmes acteurs. On a parfois tort de vouloir réduire mai 68 à l'émergence d'un mouvement étudiant, c'est-à-dire à des fils à papa qui ont déjà de belles études et tout. C'est beaucoup plus large que ça. Ça a été précédé par des grèves et suivi par des grèves. Mais l'émergence des Gilets jaunes, évidemment, vient... D'ailleurs, elle vient peut-être de parents qui voudraient bien que leurs enfants soient étudiants un jour dans de bonnes conditions.
Et entre ALENA, puis entrer ALENA, même les fils d'ouvriers à ALENA.
Oui. Et je ne pense pas qu'ils souhaitent que l'ENA disparaisse, mais que des enfants d'ouvriers puissent y entrer, ça je crois véritablement.
Et puis il y a un autre mot qui traverse le mouvement des Gilets jaunes, qui l'a traversé au début, en tout cas on en entend un peu moins parler, c'est le mot populisme, dont est parfois affublé le mouvement des Gilets jaunes. C'est un terme que vous réfutez, ça, le
populisme. Mais oui, c'est-à-dire que je sais bien qu'il existe du populisme, mais je sais bien ce qu'il faut qualifier de populiste dans des gouvernement ou des mouvements ou des partis politiques. Mais accuser les Gilets jaunes de populisme, le populisme, ce serait d'utiliser certaines des revendications des Gilets jaunes pour faire avancer des revendications de type populiste. Il est clair que, par exemple, dans le populisme français, joue un très grand rôle la défiance à l'égard de la subversion migratoire, la peur de l'étranger. Par un contrôle, je ne sais pas comment il s'est fait ce contrôle, mais il est attesté que les Gilets jaunes n'ont pas été débordés par ces demandes-là, même au contraire, on ne peut pas dire qu'elles étaient très présentes. Donc le populisme qui veut s'emparer du mouvement des Gilets jaunes, il n'a pas dans ces Gilets jaunes-là exactement le terreau qu'il lui faudrait. Et on accuse toujours de populisme pour pouvoir ensuite déconsidérer. Ce ne sont pas les Gilets jaunes qui sont populistes, ce sont ceux qui veulent l'utiliser.
Et à propos de populisme, vous rappelez la définition qu'en donnait l'historien intellectuel Bronislav Guéremec. Le populisme exploite l'absence du peuple sur la scène politique. En quoi est-ce que ça s'applique particulièrement aux Gilets jaunes?
C'est une belle formule.
Une très belle formule.
C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, nous admirons beaucoup, dont nous regrettons la disparition, qui a écrit sur les pauvres, les paysans, les marginaux du Moyen-Âge, et qui a joué un grand rôle dans les transformations de la Pologne aux autours des années 80 à 90. Oui, l'absence du peuple, ça veut dire quoi l'absence du peuple?
On s'en accommode, hein.
Pardon.
On s'accommode du silence du peuple.
L'absence, ça veut dire l'absence de représentation. Et aussi l'absence, j'essaie d'aller plus loin, si j'ose dire, dans cet essai en disant, le point de vue, on considère toujours le peuple, entre guillemets, il faudrait revenir ces définitions, les élites et le peuple, faut pas les manipuler n'importe comment, on s'en sert, c'est un peu comme ça. Mais les revendications qui émanent du peuple, on les considère toujours négatives, oui, ils se plaignent de ne pas avoir assez de pouvoir, de ne pas. On oublie de voir qu'il y a des éléments positifs. Le point de vue du peuple sur le monde. Le point de vue des femmes qui élèvent trois gosses toutes seules et qui ont un point de vue sur le monde, sur les transports publics, sur les crèches, sur les maternités. Ce sont des points de vue positifs qu'il faut entendre. On n'a pas l'habitude de les entendre, de les prendre en considération. On dit, bon, d'accord, ah oui, on va y penser pour vous. Mais ils pensent par eux-mêmes et pas pour eux.
Et puisque ce mouvement des Gilets jaunes est brouillon et désorganisé, eh bien, pour être mieux représenté, vous lui suggérez à ce mouvement des alliés de classe, souvent issus des milieux de la bourgeoisie intellectuelle. Danielle Salnave, vous pensez à qui pour relayer la parole?
Je pense à personne particulièrement.
Des Gilets
Je
jaunes.
Pense qu'il y a forcément une alliance. Pourquoi? Parce que j'assiste aussi depuis longtemps à une séparation de plus en plus, elle est subie ou elle est voulue, entre une certaine gauche, disons plutôt artistique ou intellectuel, qui, oui, prend conscience de, mais en même temps accepte de vivre tout à fait différemment et au fond de regarder aussi parfois une certaine condescendance les zones pavillonnaires, leurs maisons qu'on trouve pas très belles, mais dedans elles sont plutôt bien ces maisons et c'est le rêve de beaucoup de gens.
Avec le petit jardin, écrivez-vous, voilà, et les deux voitures devant.
Eh bien non, petit jardin, je ne veux pas de ce mépris-là. Ouais. Je me dis que cette gauche-là, en admettant qu'elle existe toujours, et je crois qu'elle existe, et qui aussi parfois fait des choses qui sont bien, je ne tiens pas du tout à généraliser, mais qu'elle conçoive, parce que nous avons quelque chose en commun, nous avons la dimension, qu'est-ce que nous avons en commun? Peut-être la dimension écologique d'ailleurs, qui va nous rapprocher, c'est sûr. Mais d'autres aussi, après tout cette gauche, elle critique le néolibéralisme, le règne du marché, le règne de la consommation, eh bien alors, faisons alliance avec ceux qui en sont bien plus victimes encore, ceux qui ont dû quitter, ou celles qui ont dû quitter les quartiers populaires pour aller habiter à 80 km de Paris et font 1h30 de voiture et le matin, eh bien faisons alliance. Sauf et voyons ensemble ce que nous pouvons faire.
Parmi les partis politiques qui revendiquent le mieux pour relayer la parole des Gilets jaunes, c'est l'extrême droite. Et vous dites que c'est la plus grande des impostures.
Elle la revendique pour des raisons qui sont parfaitement intéressées, et si j'ose dire, c'est à nous aussi. C'est que si la gauche se tait, elle laissera le champ libre aux seuls qui feront semblant de reconnaître les revendications des Gilets jaunes, c'est-à-dire l'extrême droite.
Cela dit, l'extrême droite est devenue le premier parti ouvrier. Il n'est donc pas illogique qu'il aille soutenir les Gilets jaunes.
C'est pourquoi je rends hommage à ce qu'a été pendant des décennies la couronne rouge autour de Paris. Je ne rends pas hommage au Parti communiste stalinien, mais je rends hommage au communisme municipal, à ces magnifiques réalisations de municipalités comme par exemple la ville d'Aubervilliers. Pourquoi je pense à Aubervilliers? À cause de Jacques Ralite, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps et qui était un ami et qui a fait du théâtre de la commune, auquel il faisait venir le Collège de France, une action à la fois culturelle, sociale et politique qui a été extrêmement importante pour aider la banlieue et la faire participer à la vie politique, sociale, la vie tout court.
Daniel Salnave, Emmanuel Macron s'exprimera jeudi pour tirer les conclusions de ce mouvement des Gilets jaunes et de la consultation nationale qui en a suivi avec probablement des référendums d'initiatives citoyennes, donc au moins au niveau local. C'est une belle avancée, vous l'estimez?
Je sais pas. Je trouve que puisqu'en même temps, moi je suis extrêmement inquiète de certains points de la réforme de l'enseignement. Je vois que les lycées professionnels sont en train de subir une réduction drastique des heures de culture générale, d'histoire et de français. Ben, je ne pense pas que c'est ainsi qu'on va pouvoir améliorer la condition ouvrière ou la condition populaire. Quant à la suppression de l'ENA qui précède toutes les autres annonces, pour moi, c'est une démarche absolument démagogique. C'est pas supprimer l'ENA qu'il faut, c'est la réformer. Et c'est permettre, comme l'a dit Jean-Guy Debré, à qui je rends hommage, on n'appartient pas à la même famille politique, comme on dit aujourd'hui, mais ça m'est bien égal, qui a dit, eh bien, réformons plutôt la possibilité d'accès pour les enfants des classes populaires ou ouvrières à l'ENA, mais pas supprimer l'ENA. C'est comme casser le baromètre pour faire le beau temps.
Eh bien, on lira tout cela dans votre dernier essai, on retiendra la métaphore de fin. Daniel Salnave, Jojo, le gilet jaune, quand une académicienne interroge le phénomène des gilets jaunes.
Ça vaut 3,90€ sur la bivère.
Ouais, gilets jaunes sur la bière. Vous feriez ça, vous pourriez aller un jour à l'académie comme ça.
Ça aurait pu être un sous-titre.
Les jeunes diraient que vous faites des punchlines. Ça paraît aux éditions Gallimard dans la collection Tract. Merci beaucoup Daniel Salnave et bonne journée.
Merci à vous.